Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTF et tout de suite, c'est Cinéscopie, l'émission consacrée au cinéma et à la musique de film. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. Cinéscopie, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Et on va bien sûr vous parler de l'actualité du cinéma, des films que nous avons vus cette semaine, de l'actualité du support physique, DVD et Blu-ray, et puis musique de film. Alors, la musique de film, c'est un éditeur qui nous annonce aujourd'hui, un éditeur allemand d'ailleurs, Caldera Records, qui nous annonce la parution, pour la première fois, de la musique originale du film Kramer contre Kramer. C'est un film de Robert Benton, avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, et qui raconte l'histoire d'un couple qui divorce, donc Meryl Streep et Dustin Hoffman dans le film, et qui se disputent la garde de leur fils. Un film qui avait eu un certain retentissement à l'époque de sa sortie. Et Caldera nous propose la musique du film composée par David Shire. Et c'est une musique en fait qu'on n'entend pas dans le film, et à juste raison, puisqu'en fait cette musique n'a pas été retenue par les producteurs finalement. Donc la musique a été composée pour le film, mais finalement écartée au dernier moment. Alors c'est un peu dommage, parce que quand même la musique de David Shire est plutôt intéressante. Donc Caldera Records nous propose de la découvrir, la musique de Kramer contre Kramer, accompagnée d'ailleurs de deux autres films également dignes d'intérêt. Alors les titres m'échappent là tout de suite, ce ne sont pas des films bien connus, mais c'est vrai qu'on peut se laisser tenter. Dans l'actualité de la musique de film, eh bien, c'est aussi le concert Outlander. Vous connaissez cette série Outlander, qui nous propose une tournée internationale, puisque le concert Outlander va être donné un petit peu partout, en Hollande, en Écosse, en Allemagne, mais aussi en France. Mais en France, malheureusement, on n'a qu'une seule date, c'est le 19 février prochain, 19 février 2027. Ça se passera à l'Olympia, mais alors attention, il ne reste plus de place, c'est tout complet. Et voilà, c'est un peu dommage, parce que nous, on a un peu zappé l'événement et nous n'avons pas eu de place, malheureusement, aussi pour ce concert. C'est bien dommage, parce que on est assez fan de la série et fan, très très fan même, de la musique composée par Bear McCreary, compositeur que nous affectionnons particulièrement dans cette émission. Et puis dans l'actualité du livre, c'est aussi la parution d'un ouvrage consacré au giallo, mais sous l'angle des posters des films, des affiches de films. Donc il y avait déjà eu deux parutions, l'une consacrée au giallo sur la période 1960-69. Un deuxième tome était paru couvrant la période 69-71. Et un troisième volume est annoncé aujourd'hui. Ça y est, ça sort dans les jours qui viennent. On peut déjà le précommander sur le site de Creepy Images. Voilà, Creepy Images. Donc c'est un très très bel album qui réunit, les affiches de 80 gialli. C'est assez intéressant, parce qu'en fait, au tout début des années 70, il y a des gialli vraiment très très bons qui sortent. Alors même que finalement, les gens commencent un petit peu, le public commence un peu à s'en désintéresser dans les années 72-73. Le giallo étant remplacé petit à petit par le film policier, le Polizio Tesco. Ouais, mais en fait, voilà, de très très belles affiches. Je crois qu'il y a 244 pages, et on peut se procurer ce livre sous deux formes, couverture souple ou au contraire en dur. Mais pour l'avoir en dur, il faut commander exclusivement sur le site. Voilà, donc ça s'appelle Giallo Movie Poster, et c'est chez Creepy Image, c'est le volume 3. Eh bien nous, on ne va pas se priver de le commander, parce qu'on a déjà les deux premiers tomes, hein, les deux premiers volumes, mon cher Laurent. Je crois que tu possèdes également cette collection. Ça vient de paraître. Eh bien voilà, pour commencer cette émission. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine, dans les salles de cinéma, entre autres. Nous on a passé un très très bon moment, un très bon week-end d'ailleurs, puisque nous avons pu assister au concert donné par un chanteur un petit peu confidentiel qui se produit pas très souvent. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, hein, Laurent, est-ce que tu as vu un concert d'un chanteur français qui malheureusement ne se produit pas assez souvent, mais enfin, c'était vraiment magnifique. Hein. Quel chanteur s'agit-il?
Oui, bonsoir. Oui, il est passé au Grand Théâtre.
Grand Théâtre. Samedi soir.
C'est un personnage. Alors, je vais jouer la petite devinette sur, en fait, un chanteur français, forcément à texte, hein, quand même.
Oui.
Voilà. Et qui a longtemps été, je dirais, la locomotive du label de chez Warner, tôt ou tard. C'est un artiste qui navigue donc dans la chanson française à texte, mais aussi qui est le regard en fait de notre société qui passe selon les décennies, parce que bon, c'est un artiste qui a percé dans les années fin 80, début 90.
Je crois qu'il a 48 ans.
Et donc, qui aborde de façon un petit peu humoristique, légère, mais grave aussi, notre société et aussi ses travers, ses ambiguïtés, ses incohérences, mais aussi sur le parcours aussi de sa carrière, parce que 48 ans, 49 ans, plutôt 49 je crois, il regarde un petit peu derrière lui
surtout sur son dernier album qui s'appelle
La Fresque,
magnifique.
Relate un petit peu ce qu'il a pu faire, hein, et bon, c'est vrai qu'il ne peut que s'enorgueillir d'avoir une carrière réussie, parce qu'il a quand même un public fidèle. C'est Vincent Delerme. Voilà.
Vincent Delerme, dont le papa d'ailleurs écrit des livres aussi, Philippe Delerme.
Ouais. Alors, comme je le disais, parce que bon, il y a quand même aussi cet artiste qui est.
Il est passionné par le cinéma aussi. C'est important parce que si on en parle aussi ce soir,
il
fait beaucoup de références au ciné.
C'est là où je veux en venir. C'est un artiste qui est totalement complet parce qu'il adore la musique, certes, et il aime le cinéma, il aime la photo. Il est aussi à ses temps de repos écrivain aussi, il écrit des petits poèmes, donc c'est quelqu'un vraiment d'assez complet sur le domaine artistique.
Ouais. Et la scénographie d'ailleurs était assez intéressante avec projection de vidéos sur trois écrans.
Voilà. Alors moi je l'ai pas foncièrement découvert parce que
je
connaissais et j'avais déjà vu des concerts où en fait cette scénographie, alors qui n'est pas la même, hein, mais appartenait toujours au concept visuel qui était propice aussi à quelques petites anecdotes pour faire des enchaînements de son répertoire, et donc toujours avec quand même une référence au 7e art, et à savoir que d'ailleurs c'était sur son avant-dernier album, il avait écrit une chanson sur Agnès Varda. Je crois d'ailleurs que c'était un petit peu en parallèle à l'hommage qui avait été rendu au Festival de Cannes la même année. Voilà. Donc vraiment un beau concert parce que il y avait cette ambiance, cette atmosphère qu'on apprécie particulièrement, et toujours donc cette référence au cinéma qui un petit peu nous anime quand même, hein, penser.
Non, puis de l'humour, de la mélancolie, et puis moi qui ne l'avais jamais vu en concert, c'était une très belle découverte en ce qui me concerne. Donc on attend son retour avec impatience. Hein. Ben, il y a juste de patience.
Alors, j'espère qu'il continuera à être fidèle à Limoges parce que pour le coup, ça fait déjà quand même quelques temps sur quelques albums où en fait, Limoges reste une étape dans les différentes tournées qu'il a pu faire. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Parfait. Eh bien, mon cher Laurent, peut-être que pour commencer cette émission, on va écouter un peu de musique, justement.
Oui, je dirais l'enchaînement est tout trouvé, parce que quand on parle d'artiste complet, eh bien, celui-ci est extrêmement complet. Il a eu, une carrière magnifique, qui s'est un petit peu étiolée lorsque, la naissance du cinéma parlant s'est imposée, même s'il a réalisé des films, mais qui n'avaient pas, je dirais, la même aura que pendant le cinéma muet, c'est Charles Chaplin. Et donc là, on va écouter la musique d'un très beau film, City Lights, les lumières de la ville.
Oui, c'est un
film de 1931, janvier 1931. La musique était signée par Charles Chaplin, donc acteur, réalisateur, compositeur. Donc voilà, donc déjà l'homme est quand même voilà d'une envergure peu commune. Et puis bon, tout le monde connaît Charlot. Alors peut-être pas la jeune génération. Hein, il faudrait peut-être qu'elle se penche un petit peu sur sur ce patrimoine. Dans le cinéma muet, il y avait Charles Chaplin, mais il y en avait d'autres.
Oui, mais tu sais que la télévision française nous proposait une émission dans les années 70, qui était la séquence du spectateur, et puis il y avait des séquences, il y avait des séquences du téléspectateur, et puis il y avait aussi des courts-métrages du muet qui passaient. Alors on avait, nous, on a pu découvrir Harold Lloyd, Laurel et Hardy, Max Linder, Buster Keaton, et on était émerveillé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Charlot, quand même, il a peut-être le personnage, on le connaît, mais peut-être que les films sont peut-être moins connus. Alors, il y a peut-être ceux qu'on étudie quand même, parce qu'il y a certains films qu'on étudie au collège ou au lycée, je pense au temps moderne, au dictateur, hein, qui je pense qui reviennent régulièrement, mais je pense que... Alors, et puis c'est vrai que les films tardifs, par contre, de Charlie Chaplin sont peut-être un peu moins réussis. Bon, il y a Monsieur Verdoux qui est quand même pas mal, mais après il y a la Comtesse de Hong Kong, bon...
Alors, je sais qu'il y avait quelques éditeurs à l'aube, en fait, du DVD avait sorti des coffrets, des intégrales hein, de ces films, de ces mini-films qu'il avait pu tourner. C'était plutôt une bonne innovation de la part de ces éditeurs-là. Ça serait bien qu'il y ait une nouvelle impulsion. Parce que là aussi, par le biais de sortie, eh bien, ça touche, ça impacte au moins les jeunes générations, pour certains et certaines qui sont aficionados du 7e art, eh bien, sont tentés d'aller découvrir certains programmes de ces artistes. Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est la naissance du cinéma, qu'on le veuille ou non. Et donc, le futur s'écrit toujours avec le passé et le présent.
Ah ben, totalement, ça c'est bien dit, mon cher Laurent. Et je me souviens, d'un éditeur, Lobster, je crois qu'il y avait aussi édité pas mal de cours, notamment de Laurel et Hardy, Stan Laurel notamment, ils avaient fait une très belle anthologie. Et c'est des initiatives, je l'espère, qu'ils vont se réitérer.
On l'espère. Plutôt en haute définition, pour le coup, on peut féliciter, mais je crois que tu en avais parlé la semaine dernière,
ou
il y a 15 jours, la mécano de la Générale, qui vient de sortir en ultra HD. C'est plutôt une bonne surprise, en tout cas. Donc on est parti pour écouter
Les Lumières de la Ville.
Lumières de la Ville, qui est interprété par le City Lights Orchestra, dirigé par Carl Davis. Là aussi une pointure qui figurait sur un programme édité à l'époque par Silvascreen. Allez, on écoute Les Lumières de la Ville, musique signée Charles Chaplin.
Thank you.
Vidéo, voilà quels sont les films dignes d'intérêt que vous allez pouvoir vous procurer ces jours-ci. Alors, on va commencer bien par un. Alors, on en a déjà peut-être un peu parlé, quoique j'ai un petit doute, parce que c'est paru début mars. Alors, voilà, c'est un petit peu ancien, mais je pense qu'on a un petit peu zappé, c'est un peu dommage. Le film s'appelle The Chronology of Water. C'est un film réalisé par Kristen Stewart. Et Kristen Stewart qui passe derrière la caméra, hein, c'est elle qui réalise, donc c'est son premier passage vraiment derrière la caméra. Et pour ce, elle adapte les mémoires de Lydia Yuknovitch. On y suit le parcours de Lydia, une jeune femme issue d'un milieu marqué par la violence et les addictions, qui trouve dans l'écriture et la littérature une bouée de sauvetage inattendue pour transformer son traumatisme en une force créatrice brute. Voilà, c'est un film assez intéressant quand même de Kristen Stewart, et qui prouve qu'elle est une réalisatrice avec une véritable personnalité. Donc voilà, je vous conseille de découvrir ce film, et puis la performance de l'actrice Imogen Poots, qui est tout à fait époustouflante dans ce récit. Là aussi, je pense qu'on avait dû en dire un petit mot, mais je préfère rappeler l'existence de ce film, parce que il a été plutôt mal accueilli en salle. D'ailleurs, je me demande pourquoi, parce que moi j'ai trouvé pas si mal que ça. C'est The Running Man, qui est en fait une nouvelle version cinématographique du roman de Stephen King, qui avait déjà été adapté avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Alors c'est une histoire qui nous transporte dans une société dystopique. Ben Richards participe au jeu télévisé le plus populaire et le plus cruel, The Running Man, et traqué par des tueurs professionnels, observé par des millions de téléspectateurs, il doit survivre pendant 30 jours pour espérer gagner sa liberté et sauver sa famille. C'est Glenn Powell qui joue le rôle de Ben Richards. Je trouve qu'il est vraiment excellent dans ce film. À vrai dire, Glenn Powell, je trouve, moi, tous les films que j'ai vus avec lui, depuis Twister, en gros, je trouve plutôt bon. Et jusqu'à d'ailleurs L'Ultime Héritier, qui passe actuellement en salle. Voilà, donc Glenn Powell, et puis c'est Edgar Wright qui est aux manettes de ce film. Donc on a un spectacle quand même plutôt efficace, franchement, avec un vrai message politique. Pour moi, ça fonctionne, donc je vous propose de le redécouvrir, ce film, The Running Man. Alors maintenant, on va partir, comme aime bien le faire Laurent, en direction des films de patrimoine, avec tout d'abord un film de François Le Terrier, Les Mauvais Coups. Un film édité par Pathé, donc un film restauré qui vous est proposé dans un combo Blu-ray et DVD, avec dans les rôles principaux Reginald de Kernan et Simone Signoret. Alors, les deux comédiens interprètent le rôle de Milan et Robert. C'est un couple, voilà, ils sont mariés depuis 10 ans. Et depuis que Milan s'est retiré de la course automobile suite au décès de son meilleur ami, eh bien, rien ne va plus entre eux. Robert se noie dans l'alcool pendant que lui va chasser dans la campagne bourguignonne. Et puis un jour, dans le village, arrive une jeune et jolie institutrice interprétée par Alexandra Stewart. Et cette jeune femme, qui s'appelle Hélène, eh bien, va mettre à bas leur couple. Alors c'est un film donc de 1961 qui reflète 61-62 qui reflète vraiment la vie d'une certaine façon du couple Simone Signoret Yves Montand, puisqu'en fait ils vivent un peu leur couple a tendance un peu à se déliter déjà à ce moment-là. Simone Signoret tourne moins, elle boit aussi, elle commence à boire un peu beaucoup. Donc il y a une sorte de mise en abîme quelque part avec ce film Les Mauvais Coups de François Le Terrier. Donc un très beau film, très très bien restauré. Alors dans les bonus, on a d'abord on a un bonus sur Roger Vaillant, qui est l'auteur du roman que le film adapte, et puis un bonus sur Alexandra Stewart face à face avec Simone Signoret. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc c'est chez Pathé, Les Mauvais Coups avec Simone Signoret, qui est vraiment magnifique et dans une belle restauration. Maintenant, allons voir du côté de Studio Canal avec la collection Make My Day, dirigée par Jean-Baptiste Torré, puisqu'il nous propose un film de Terence Fisher, Stolen Assignment. Un film de Terence Fisher, alors c'est un petit peu surprenant, parce que Terence Fisher, on l'associe en général plutôt aux films fantastiques. Le Cauchemar de Dracula, voilà, les productions de la Hammer. Ici, on est plutôt dans une comédie policière. La femme de l'artiste Henri Crosselet est en vacances pour une semaine avec sa tante. Mais lorsque la tante se présente, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa nièce, une enquête est donc confiée à la police. Et Henri, étant apparemment très occupé au moment où sa femme a disparu, bah, n'aurait-il pas quelque chose à cacher? Peut-être que c'est lui qui est... Voilà. Alors, il y a une sorte de comédie policière, assez courte d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je me demande si le film n'aurait pas mérité à figurer plutôt dans un double programme, finalement. Parce que, cela dit, le film quand même intéressant. Là aussi, c'est un combo, là aussi, Blu-ray et DVD, une belle restauration. Et ça permet à nouveau, évidemment, à Jean-Baptiste Torré de nous faire redécouvrir ce cinéma britannique qu'on a un petit peu oublié. Alors bon, il y a quelques pierres angulaires du cinéma, Michael Powell, voilà, quelques films, Noblesse oblige, bon. Mais voilà, il y a tout plein de films super intéressants, et moi je vous conseille ce Stolen Assignment dans la collection Make My Day. On va parler de maintenant, alors là, dans un style, on change complètement de registre. On va parler de Terence Hill et Bud Spencer, puisqu'un documentaire vient de paraître sur support Blu-ray. Ça s'appelle Terence Hill, Bud Spencer et moi. Et donc c'est un documentaire bien sûr qui se penche sur la saga cinématographique des deux compères, et un film vraiment qui est un hommage sincère et passionné à Terence Hill, Bud Spencer. Donc voilà, je vous conseille ce documentaire, et si vous êtes vous aussi fan de Terence Hill et Bud Spencer, vous pouvez accompagner ce documentaire d'un film qui vient de paraître chez BQHL, Escrocs, Machos et gigolo. Ouais, c'est le titre de ce film où l'on retrouve dans les rôles principaux Bud Spencer et Thomas Milian. Et oui, il n'y a pas Terence Hill dans celui-là, c'est Thomas Milian. Dans ce film, eh bien, Ben Spencer joue le rôle du lieutenant Parker, qui se fait passer pour un représentant en aspirateur de manière à appréhender Tony Roma, une fripouille séduisant de riches vieilles dames qu'il finit inévitablement par dépouiller. Parker est alors loin de se douter que bientôt il sera mis dans l'obligation de se montrer plus tolérant à l'égard de cet escroc, celui-ci se trouvant désormais être la cible de la mafia pour avoir été témoin d'un meurtre. Voilà, Bud Spencer, Thomas Milian. Thomas Milian, oui, on l'avait découvert dans les Western Spaghetti, hein, mais il a joué souvent des rôles de crapule dans les Poliziotesco et même il a joué le rôle de Monezza, une sorte de petit truand, mais plutôt folklorique, un personnage assez picaresque, ouais, assez drôle. Voilà, donc on peut se laisser tenter par ce film escroc, macho et gigolo, c'est le titre, réalisé alors par Bruno Corbucci. Hein. C'est pas Sergio Corbucci, c'est Bruno. C'est pas un chef-d'œuvre, ça on va pas se le cacher. Mais voilà, il y a quand même un bonus intéressant. C'est un entretien avec Jean-François Giré, qui est un spécialiste d'ailleurs du western européen. Un entretien d'une trentaine de minutes qui revient sur le parcours Bud Spencer, Terence Hill. Voilà donc pour ma petite sélection de films. Voilà, évidemment, je vous conseille quand même, hein, ça c'est mon conseil du jour, le film avec Simone Signoret, Les Mauvais Coups, édité chez Pathé. Et puis n'oubliez pas The Running Man, qui je pense mérite une deuxième chance. Laurent, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as quelques titres à nous proposer ce soir ?
Eh bien, bien sûr. Quelques titres en... Alors, cette fois-ci, un petit peu en DVD aussi. Hein, ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, eh bien, certains éditeurs, des petits hein, éditeurs, soit ils ne croient pas au programme, soit parce qu'ils n'ont pas, le courage peut-être de sortir certains films. Et donc, du coup, on les voit débarquer direct... En édition standard DVD, et donc c'est le cas de cette comédie dramatique de Joss Boone avec Alison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, film de l'an dernier qui s'intitule Regretting You. C'est une coproduction américano-allemande qui raconte les relations entre une adolescente et sa mère qui l'a eue très jeune et qui sont durablement impactées par un tragique événement aussi soudain qu'inattendu, révélateur d'un inavouable secret. Et donc, il est difficile d'en dévoiler plus, hein, sans, spoiler l'effet de surprise. Mais le réalisateur du très remarqué Nos étoiles contraires et du très conspué Les nouveaux mutants, eh bien, parvient à faire de cette comédie romantique ressort inattendu une bien jolie petite réussite entre une romance jamais nunuche et une propension à restituer le drame sans mélo pour permettre au duo mère-fille, toutes deux complémentaires, de se reconstruire sur les cendres d'un passé commun, compliqué, une composition d'ailleurs assez éclatante de la très attachante McKenna Grace qu'on avait vu dans SOS Fantôme, l'héritage.
Oui, je pense que c'est une comédienne qui va avoir une belle carrière, parce que je trouve qu'effectivement elle joue très très bien, et puis elle a beaucoup de charme en plus, un vrai charisme.
Donc l'éditeur, c'est un gros éditeur quand même, c'est Paramount, ouais. Mais je pense qu'il ne croit pas trop en ce programme, et donc il le propose exclusivement en DVD, et bien sûr, je le dis rapidement, parce que nous ne sommes pas fans de la dématérialisation en VOD. Voilà. Autre film, toujours de l'an dernier, Il y a eu, vous savez, vous rappelez du film de Luc Besson, Dracula.
Ah oui.
Mais il y a eu un autre Dracula.
Alors, tu m'intrigues.
C'est une comédie dramatique réalisée par Radu Djoud.
Oui, je vois ça.
Avec Adonis Tanta, Gabriel Spayou et Una Maria Zaharia. Et donc, le film qui est interdit aux moins de 16 ans au passage, qui raconte l'histoire d'un jeune réalisateur qui se sert de l'intelligence artificielle pour créer un scénario original sur le mythe de Dracula. Et donc... cette OVNI, si on peut dire, objet filmique non identifié, qui part littéralement dans tous les sens, eh bien, ce Dracula a nul autre pareil, parce que tout simplement, il est à la fois drôle, corrosif, outrancier, mais aussi, il mêle joyeusement le sexe, la comédie, le drame, et aussi l'horreur. Donc c'est une réflexion sur le mythe et aussi sur la création. Le film quand même flirte avec les 3 heures quand même. Hein. Donc
oui. Voilà. Ça m'a l'air quand même plus intéressant que le Dracula de Besson.
Hein. Je pense. Oui. Oui. Et donc on le doit à un très petit éditeur qui le propose exclusivement là encore en DVD. C'est JHR Film. Voilà.
D'accord.
Et donc si vous le voyez dans quelques bacs, eh bien c'est une petite pépite, c'est à découvrir, on va dire. C'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est assez singulier pour pouvoir parler en fait de sa sortie.
Voilà. Oui, ça mérite vraiment la découverte.
Oui,
bien sûr.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que le film n'a pas eu, toute l'exposition voulue, parce que je crois qu'il n'a même pas été projeté sur la région.
Oui, j'ai un doute.
Me semble-t-il. Hein,
ouais, on n'a pas de souvenir en tout cas.
Bon, voilà. Ma sélection est très courte, mais ce que je voulais dire, parce que bon, à côté de ça, ouais, bien sûr, il y a des petites choses.
Oui, oui, oui. J'allais dire quelque chose. Peut-être qu'on va se rejoindre.
Alors peut-être. Peut-être.
Alors, à moins que tu veuilles que je commence. Hein, un scoop peut-être.
Alors, un scoop, on pourrait en donner pas mal des scoops. Hein. Alors, le cinéma français va être à l'honneur, et d'ailleurs, de la part d'un réalisateur que je dirais que peut-être c'est un des réalisateurs français qui a amené, je dirais, les grandes fresques de notre histoire donc en images. Il va être à l'honneur dans pas longtemps parce que tout simplement il va y avoir une réédition en haute définition d'un film de 1966, c'est La vie de château, réalisé par Jean-Paul Rapneau.
Ah oui.
Et donc avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Pierre Brasseur. Et donc, c'est en préparation chez un éditeur qui défend corps et âme le cinéma de patrimoine, c'est Gaumont Vidéo. Ouais. Pour une parution fin avril, elle bénéficiera d'un master totalement restauré en 2K et aussi d'un court-métrage de 1958 du réalisateur et d'un documentaire en compagnie de celui-ci. Donc voilà, ce sera une édition assez assez fournie, je dirais, et donc on pourra redécouvrir ce film dans une très très belle restauration.
C'est une bonne nouvelle.
Oui. Autre film, là on change radicalement de sujet. La sortie, je crois, est prévue sur le début avril, me semble-t-il, dans une édition. Alors je ne sais pas si elle sera combo, mais il y aura un DVD et un Blu-ray. Un éditeur qu'on apprécie parce que bon, il met en avant des fonds de catalogue. de grands distributeurs et éditeurs qui ne croient pas du tout en ces programmes-là, et donc ils sous-traitent en fait la distribution et la restauration de ces programmes qui ont été choisis. Et là, pour le coup, on va y découvrir Michael Caine dans ce film.
Alors.
Qui est axé sur la défense héroïque d'un fortin par une petite unité de l'armée britannique en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle.
Ça me parle, ça. Attends, ça serait pas Zoulou ?
Eh bien, si.
Ah.
Et donc, ce film-là, eh bien, va débouler. Donc, début avril, je crois que c'est plutôt sur la première fin de première semaine.
Ouais, c'est pas mal, ça. Mmh.
Et donc ça, voilà, c'est plutôt, je dirais, une bonne chose à redécouvrir. Et on pourra aussi découvrir, alors toujours, je crois, à peu près dans la même période, un long métrage, premier long métrage, par Sidney Pollack, où il y a un grand acteur.
Alors attends, Sidney Pollack, un de ses premiers films, tu dis alors.
Oui.
Le grand acteur. Gene Hackman, peut-être.
Pas du tout. C'est, je dirais, allez, si je te dis En attendant la nuit.
Vas-y, continue. Rock Hudson.
Non, pas du tout.
Non. En attendant la nuit.
Alors, c'est un film de 1965 avec Sidney Poitier, qui joue le rôle d'un étudiant en médecine, qui reçoit d'ailleurs un.
C'est pas plutôt Dans la chaleur de la nuit, d'ailleurs.
Oui, c'est La chaleur de la nuit, t'as raison. et qui reçoit un appel d'une femme, et dans ce film-là, il y a Anne Bancroft aussi.
Ah oui, oui.
Et le film s'intitule 30 minutes de sursis. On va dire que c'est un polar assez dense, avec un suspense assez novateur pour l'époque. Et donc ça, voilà, un film qui va très certainement être très intéressant dans le cinéma de patrimoine et qui a été un temps disponible chez Paramount. Et donc, ce sera Rimini Édition qui va nous le proposer donc à la vente très prochainement.
Ah oui, c'est très très bien.
Donc, voilà. Alors, bien sûr, il y a tout un programme, mais je ne vous, bien sûr, révélerai pas tous les titres. on garde quelques petites surprises courant, bien sûr, de l'année, hein, parce que ça couvre, bien sûr, le programme éditorial couvre toute l'année de tous ces éditeurs. Mais il y a aussi un film qui nous avait, ma foi, bien emballé à l'époque, en 95, un film d'ailleurs qui faisait penser un petit peu, je dirais, à la continuité du cinéma de James Ivory dans le registre. Et là, eh bien, c'est Sony qui va nous le proposer dès le 1er avril dans une édition haute définition, restaurée 4K. Film réalisé par Ang Lee avec entre autres Emma Thompson. La musique est signée
Patrick Doyle. Et elle est magnifique.
Ses raisons et sentiments.
Ah oui, c'est un très beau film d'ailleurs, hein.
Très beau film, oui.
Là, effectivement, c'est une bonne surprise aussi que d'avoir réédité ce film.
Et alors, on reste, on change un petit peu d'humeur, mais on va dire que un autre réalisateur, c'est David Aboukaya.
Oui, alors là, qui mérite sans doute d'être découvert.
Oui, qui en fait est bien connu pour ses réalisations de films sur la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Et donc là, il récidive aujourd'hui avec 7 jours en juin, donc sur le combat d'un groupe de parachutistes américains contre une division SS en Normandie lors du débarquement de 1944. Et donc, ce titre va être édité, et bien là encore, sur la fin de la première semaine d'avril, par Rimini Édition, avec un making-of d'à peu près 1h10, donc ce qui est déjà pas mal, et donc qui sera une exclusivité sur le support très haute définition. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être voilà une bonne surprise pour en fait découvrir ce film réalisé par David Aboukaya. Et donc, on parlait tout à l'heure du chat qui fume, je me semble-t-il.
Oui.
Et donc, il prépare la sortie splendide d'un film incontournable, d'un réalisateur...
non moins incontournable.
Oui, qui a signé quand même des grands polars. Celui-ci, en fait, a été réalisé en 1980.
On continue parce que là, j'essaie de... J'essaie de trouver, là je joue avec toi, mais les indices sont un peu chiches.
Oui,
là.
Oui, oui. Le directeur photo est Vilmos Zsigmond.
Ah, alors attends, là ça... Là, alors,
le compositeur n'est autre que Pino Donaggio, mais enfin ça... ça ne va peut-être pas non plus voilà, fixer tellement le film. Allez, on va bien sûr parler des acteurs.
Allons-y. Parce que là, tu m'intrigues très fortement.
Alors, nous avons, là, je pense que là, ça sera très facile, Nancy Allen.
Ouais. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui.
Je crois, me semble-t-il, qu'il y a un acteur qui a joué dans La fièvre du samedi soir, qui n'est autre que John Travolta.
Ah oui, 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 là, oui, oui. Alors là, ça se précise.
Voilà. Et donc, le splendide polar n'est autre que Blue Out.
Ah, Blowout, qui est peut-être un des plus grands films de son auteur, de Brian De Palma, bien sûr.
Bien sûr, Brian De Palma.
Ah oui.
Donc, dans une version UHD, avec HDR Dolby Vision, pour les aficionados de la technique. Et donc, avec plusieurs pistes VF, version originale sous-titrée, que ce soit en mono ou en DTS, haute définition. Voilà, le chat qui fume a mis les petits plats dans les grands, si je puis dire, pour ce film. Et donc, eh bien, il propose cette sortie. Alors, avec quelques bonus aussi, parce qu'il y a aussi des petits bonus par le producteur du film, mais aussi le compositeur qui intervient pour une petite trentaine de minutes.
Ah, voilà, bah donc
c'est plutôt pas mal, je dirais.
Ça a l'air tout à fait passionnant comme édition de Blowout, franchement.
Donc voilà, donc rien que pour cela, rien que pour l'interview du compositeur, ça peut être quand même vraiment faire la différence avec les autres éditions qui ont été proposées sur ce film-là. Ouais. En mémoire, je crois qu'il y avait Carlotta, me semble-t-il.
Mais je pense que l'image sera encore mieux définie sur cette édition. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on ne se lasse pas de ce film, qui est quand même une très grande réussite.
Mais je crois que voilà, on a fait le tour. On rajoute un petit titre.
On peut rajouter pour le chat qui fume, oui. Enfin.
Allez. Pour ce triomphe historique en salle,
oui.
L'an dernier, dans son pays d'origine, 12 millions d'entrées, ce qui est quand même énorme, malgré sa durée, le film fait 3 heures, c'est un film dramatique, plus grand succès jamais enregistré au Japon pour un film hors animation, qui va paraître donc en DVD, Blu-ray, malheureusement avec uniquement une version originale sous-titrée, le 21 avril, chez Pyramide Vidéo, avec en supplément un entretien en compagnie du réalisateur Lee Sang Hill.
Et de quel film s'agit-il? Parce que du coup, là, moi, je ne l'ai pas vu.
Moi non plus.
Ah, tu l'as pas vu non plus.
Mais voilà, on en a entendu parler. Je crois qu'il a été diffusé, mais peu de temps sur en salle, chez, en tout cas sur Limoges, Le Maître du Kabuki.
Ah oui, oui, oui. Ah, ça a l'air très, très bien. Oui, ouais. je l'ai malheureusement loupé aussi. Et je l'avais mis sur mes tablettes pourtant, celui-là, mais effectivement, un film assez long. Je reviens rapidement sur le chèque qui fume, parce que s'il y a des titres intéressants qui sortent, mais il faut les précommander dès aujourd'hui, parce que ce sont des films qui seront disponibles à partir du mois de juin. Mais c'est maintenant qu'on les commande sur le site du chèque qui fume. Alors, si vous aimez Crocodile Dundee, il y a la totale Crocodile Dundee dans, voilà, une très belle édition. Le chat qui fume, fidèle à ses habitudes également, édite quelques films de genre, des films de série B, hein, voire un petit peu nanardesque. Série B avec Le Tueur de la Pleine Lune, un giallo réalisé par Ruggero Deodato avec Michael York et Edwige Fenech. La présence également de Donald Pleasance dans ce film, qui est un giallo tout à fait regardable et qui vous est présenté dans une version restaurée. Et puis également, alors là, un film qui est un petit peu tombé aux oubliettes, on est un peu plus proche du film de série Z, là, celui-là, c'est Paganini Horror. Et voilà, où il est question effectivement du fantôme de Paganini, mais bon, c'est quand même assez kitsch. Voilà, bon, mais écoutez, ça a le mérite d'exister. Si vous voulez découvrir ce cinéma italien de série B, ou bis, avec Paganini Horror, voilà, et puis le Tueur de la Pleine Lune, et puis surtout alors un film de Liniana Cavani, c'est Les Cannibales, avec une musique signée Ennio Morricone et la présence d'un acteur français que nous avons aimé, Pierre Clémenti. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter très rapidement. Les Cannibales de Liniana Cavani, Le Tueur de la Pleine Lune et Crocodile Dundee, tout ça chez Le Chat qui Fume, et c'est maintenant que ça se commande, mes chers amis. On va faire une petite pause musicale puisqu'il est 21h55 à la pendule de RTF, et Laurent, que nous as-tu concocté?
Eh bien, un extrait assez magnifique qui en fait s'intitule First in Flight. C'est une première mondiale à l'époque, quand le disque est sorti en 2012, parce qu'en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une musique signée James Horner pour un court métrage de 29 minutes, écrit et dirigé par Brandon Hess dans le cadre de sa thèse à l'AFI, qui est l'American Film Institute, qui raconte l'histoire de deux mécaniciens de Dayton, dans l'Ohio, Orville et Wilbur Wright, qui ont osé croire qu'ils pouvaient voler, et donc leur rêve était tellement grand qu'il s'est réalisé. Maintenant, ses frères sont sur le point de faire face à leur jour le plus difficile, qui est le 30 mai 1912. Et donc, Orville est au chevet de son frère mourant. Ils réfléchissent sur leur vie, leur joie, leur peine, les amitiés et les trahisons. Bien qu'ils aient appris au monde à voler, ils se sont fait d'énormes sacrifices en cours de route. Ils sont alors hantés par la question « Est-ce utile ?» Et donc, James Horner a enregistré donc la musique donc en juillet 2012 au Sony Studio, et on va écouter un de ces extraits ma foi, est peut-être une des plus belles musiques d'Horner, mais comme il en a fait beaucoup.
Oui, mais il était passionné d'aviation aussi.
D'ailleurs, c'est ce qui l'a un petit peu, qui l'a précipité à sa perte, oui, si je puis dire. Mmh. On va écouter, ce sera aussi en parallèle un hommage à ce très très grand compositeur. Ça dure un petit peu plus de 5 minutes pour cette musique, pour ce court-métrage First in Flight. Voilà, on écoute cela et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Les films de la semaine, ce soir.
La couleuvre noire, La guerre des prix de Anthony Deschaux et Projet Dernière Chance, le film avec Ryan Gosling. Eh bien, oui, on a vu d'autres films, mais voilà, on ne pourra pas vous parler de tout ce soir, puisqu'on a vu aussi L'île de la demoiselle, on a vu L'ultime héritier avec Glenn Powell. Eh bien, on va commencer, on commence par quoi? Si nous commencions par La couleuvre noire, mon cher Laurent. Ensuite, nous parlerons du projet Dernière Chance, le film de science-fiction, et on terminera avec La guerre des prix. Alors, La couleuvre noire, je me tourne vers toi parce qu'en réalité, c'est Laurent qui a découvert ce film je ne connais pas, donc je vais pas vous le pitcher, hein. Je me tourne vers toi. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le sujet de ce film?
Alors, le sujet de ce film, c'est après des années d'absence, eh bien, Siro revient chez lui au chevet de sa mère. Et donc, dans ce désert colombien de la Tatacoa, eh bien, il retrouve ceux qu'il avait fui et affronte les derniers gardiens d'un territoire aussi fragile qu'envoûtant. Voilà. C'est un film un petit peu, je dirais, quelque part, un petit peu mystérieux par son pitch, hein. Et aussi assez intéressant parce que tout simplement le film a été tourné, et ça relève quand même de l'exploit, parce qu'il a été tourné totalement en Colombie. C'est le second long métrage à ce jour de ce cinéaste français, et donc La couleuvre noire appartient sans nul doute au slow cinéma, style filmique, hein. Je dirais que le film est une sorte d'expérience, si je puis dire, tant ce film d'Aurélien Vernès Lermusio, qui signe un grand film dans le sens que il y a vraiment, on le sent dès les premières minutes, qu'il y a une rigueur assez formelle, où le récit s'efface d'ailleurs au profit d'une expérience sensorielle assez dense. Et donc l'histoire suit le retour de cet homme dans son territoire d'origine, un geste en apparence simple, mais chargé d'une tension sourde liée à la mémoire, à la famille et à ce qui n'a jamais été résolu, et donc porté par la présence singulière d'Alexis Tafour, eh bien, le film s'inscrit dans une tradition du cinéma contemplatif, mais sans jamais céder à la facilité esthétique, même s'il y a de très très belles images du désert colombien. Et donc la mise en scène repose sur une économie de dialogue et un travail précis sur les corps, et donc les déplacements, les regards, les silences, qui deviennent les véritables vecteurs du récit. Et ce choix d'ailleurs impose un rythme très lent, parfois d'ailleurs déroutant, et c'est ce qui en fait est le bénéfice du film, mais aussi qui en est, je dirais, sa faille. Mais il est toujours cohérent avec l'ambition du film, faire ressentir plutôt qu'expliquer. Et donc le spectateur n'est pas vraiment guidé. Il est confronté d'ailleurs à une matière assez brute, à une forme d'errance qui épouse celle du personnage principal. Et donc le désert de la Tatacoa occupe une place centrale, non comme simple décor, mais comme, je dirais, une entité active. Et donc sa présence influence les comportements, les émotions et même la perception du temps. Et donc le travail sonore renforce cette immersion avec une attention particulière portée aux vibrations naturelles du lieu. Et donc la musique utilisée avec parcimonie vient troubler l'équilibre plutôt que le stabiliser. Et donc l'ensemble construit quand même une œuvre assez exigeante. C'est-à-dire que il vaut mieux, comment dire, être très très éveillé pour suivre ce film, qui demande d'ailleurs une véritable implication. Et donc là, le cinéma ne cherche pas à séduire immédiatement, mais à installer une relation durable avec le spectateur. Et donc la couleuvre noire s'impose ainsi comme une proposition très singulière, où le rapport au territoire et à la mémoire devient le cœur même, je dirais, de l'expérience. Donc vous avez tous compris que c'est aussi un parcours initiatique pour le spectateur. Et donc, forcément, si vous recherchez dépaysement pur, ça ne va pas être ce programme-là qu'il va falloir aller voir. Voilà.
Bien. Bon, effectivement, une petite déception quand même.
Disons que c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tout simplement, l'attrait de ce film est aussi sa faille. Et donc cette distanciation, cette forme brute fait que le spectateur peut s'y perdre très rapidement et peut-être être beaucoup moins captivé par l'histoire du fait que voilà, il y a quand même un cinéma totalement contemplatif assumé. Et donc du coup, si vous n'êtes pas, je dirais, un grand fervent de ce genre de cinéma, bien, je pense que vous allez être débarqué assez rapidement.
Très bien, La couleuvre noire. Alors si vous voulez peut-être un petit peu plus de dépaysement, eh bien il va falloir aller voir le projet Dernière Chance, film de science-fiction, un film fleuve d'ailleurs puisqu'il dure un petit peu plus de 2h30. On pourrait dire que c'est un space opéra puisqu'effectivement l'essentiel de l'action se situe à des millions d'années-lumière de la Terre. Alors, le pitch, l'univers est menacé par la présence de cellules, d'organismes qui détruisent les planètes, les soleils, c'est des organismes qu'on appelle les astrophages. Les astronomes détectent une planète qui semble résister, justement, à la contamination. Et le problème, c'est que cette planète est vraiment très très loin, à plusieurs années-lumière de la Terre. Donc on décide d'envoyer un équipage, un vaisseau spatial à destination de cette planète, mais c'est pour un voyage sans retour, parce que le temps d'arriver là-bas, et il faut plusieurs années, même chose pour revenir. Bon, donc ils envoient quand même, voilà, ils envoient un équipage constitué de deux astronautes et d'un chercheur. Le chercheur, un chercheur en biologie moléculaire qui est interprété par Ryan Gosling. Ryan Gosling, qui est d'ailleurs très impliqué dans le film, puisque non seulement il en joue le rôle principal, mais il le produit. C'est un des coproducteurs du film. Voilà. Sauf que ce chercheur qui s'appelle Grace, eh bien, lorsqu'il se réveille, donc dans le vaisseau spatial, il se réveille amnésique. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus pourquoi il est là. C'est un petit peu embêtant. Bon. Évidemment, ça va lui revenir petit à petit. Et d'ailleurs, le film est construit sur un mode de montage alterné avec des séquences de flashback qui relatent un petit peu le pourquoi, le comment, voilà, pourquoi il est dans ce vaisseau spatial et quelle est sa mission. Et puis, arrivé à proximité de la fameuse planète qui résiste encore et toujours aux astrophages, eh bien, une rencontre tout à fait étonnante va se produire. En effet, Grace va se retrouver confrontée à une forme de vie extraterrestre, un vaisseau spatial extraterrestre et donc un contact va se faire entre lui et cet extraterrestre. Voilà. Donc je vais pas en dire davantage, mais donc il va y avoir effectivement un échange et une relation. Alors ça c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est cette relation. Elle fonctionne, même si effectivement l'aspect de l'extraterrestre, vous allez voir, est assez surprenant. Mais voilà, le film prend le temps de développer justement cette relation. Le film dure plus de 2h30. Et c'est vrai que, du coup, on est quand même ému par ce qui se passe, par les événements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur ce film? D'abord que c'est un très beau film, la photographie, les effets spéciaux, c'est tout à fait remarquable. C'est vrai que il y a une qualité, vraiment, on y croit. C'est-à-dire que l'univers, voilà, c'est important dans un film de science-fiction de croire justement à l'environnement technologique. Ça fonctionne plutôt bien. Le casting, formidable. Je trouve que Ryan Gosling est assez convaincant finalement. Je trouve que il apporte des nuances. Il est peut-être. J'ai lu quelque part que c'était peut-être un de ses meilleurs rôles et je pense en effet. Voilà. Et donc là, il est plutôt bien dans ce rôle. Alors évidemment, dans les scènes en flashback, on retrouve une actrice, c'est un peu surprenant, l'actrice principale du film Anatomie d'une chute, c'est-à-dire l'actrice allemande Sandra Hüller, qui est très bien là aussi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, moi j'ai quand même été un petit peu gêné par un certain nombre de choses. Tout d'abord, je me suis demandé à quel public s'adressait ce film de science-fiction. Pourquoi? Parce que y a quand même pas mal de scènes de comédie et je me dis finalement qu'on a là affaire à une comédie de science-fiction. C'est un petit peu curieux dans un film où les enjeux sont quand même majeurs puisqu'il s'agit de la survie de l'humanité. On pense beaucoup à un autre film de ce type-là, Interstellar. Mais le ton est quand même assez différent. Donc il y a des scènes de comédie. En même temps, est-ce que c'est une comédie qui s'adresse aux enfants? Je n'en suis pas certain là non plus, parce que il y a des répliques qui s'adressent plutôt à des adultes. Je pense qu'il y a des choses que les jeunes enfants n'ont pas forcément capté. Donc c'est un petit peu particulier. Il y a un équilibre quand même, il y a une sorte d'équilibre qui se fait, assez miraculeux quand même, parce que la dimension comédie ne l'emporte pas, heureusement, sur les enjeux. Et il y a quand même une scène d'action assez formidable d'ailleurs dans le film, lorsque le vaisseau spatial se rapproche de l'orbite de la fameuse planète. Mais j'en dis pas plus. Alors, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'action dans le film. C'est-à-dire que 2h30 de film, et il y a une scène d'action qui est très réussie, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, si on s'implique pas vraiment dans l'histoire du film, je pense qu'on peut quand même s'ennuyer. Moi, ça n'a pas été le cas. Je vous avoue que j'étais avec le personnage et ça a plutôt bien fonctionné. Mais je trouve quand même le film peut-être un chouïa trop long. C'est un petit peu dommage. Et puis ce ton un peu décalé, qui ne fonctionne pas toujours, et surtout avec une fin qui pour moi frôle le ridicule. Je n'en dirai pas plus. Je parle vraiment de la toute fin du film. Je peux pas vous parler de la fin, mais enfin, bon, voilà. Donc, j'ai pas été finalement totalement convaincu par ce film, même si je reconnais la prouesse technique, si je reconnais aussi l'investissement de Ryan Gosling, la musique aussi de Daniel Pemberton, qui est plutôt assez réussie, avec l'utilisation de chœurs, ça c'est assez beau, je trouve que ça fonctionne. Voilà, le ton un peu décalé du film, moi, m'a un petit peu gêné, j'ai pas été convaincu, et le film, je trouve, aurait peut-être gagné à être un petit peu resserré. Laurent, tu as vu le film aussi, qu'en as-tu pensé ?
Ben, ma foi, c'est vrai que c'est très difficile de cerner ce film tant voilà, il évolue autant dans le drame, cinéma aussi d'action, même s'il y a pas assez peu d'action, de l'émotif aussi, on pense un petit peu à Spielberg d'ailleurs dans ce registre-là, mais aussi peut-être... aussi un autre film avec Matt Damon qui était Seul sur Mars.
Oui, mais d'ailleurs
qui est du même auteur. Donc forcément,
on pense quand même à beaucoup de films. Oui. Interstellar, Gravity.
Oui. Sunshine aussi, me semble.
Aussi un peu,
un petit peu. Danny Boyle. Franchement, c'est vrai qu'on est un petit peu désarçonné par, je dirais, le mélange de genres. Mais ma foi, c'est un exercice d'équilibriste, je dirais, parce qu'au final, eh bien, on en ressort plutôt satisfait, parce que tout simplement, c'est quand même une belle histoire, même si voilà, y a ça et là, il y a des petites incohérences, mais
la toute dernière séquence, c'est ce que je veux dire.
Mais bon, après les scènes dans l'espace et cette relation avec l'extraterrestre,
ça fonctionne bien.
Et c'est plutôt, je dirais, pas mal trouvé.
Même si là aussi, on pense à un autre film.
Oui.
C'est Contact.
Oui, c'est qu'en fait. Contact.
C'est Contact. Ouais.
C'est un film qui coche toutes les cases du déjà vu, mais quand même en y apportant son lot d'innovation dans le registre de l'histoire, même si voilà, on l'a déjà vu par quelques extraits dans d'autres films ça et là, les grands moments de cinéma, on les adore vu qu'ils sont quand même peu nombreux.
C'est vrai.
Et donc du coup, même si le film est pas totalement novateur, eh bien ma foi, il emporte quand même, je dirais, l'avis global, parce que tout simplement, on passe quand même un excellent moment. Malgré la longueur du film, parce que moi j'ai pas retrouvé véritablement là aussi de longueur, même si le film quand même en termes de temps est relativement long. Franchement, on se laisse guider par ce film là. Donc je dirais que la mission, si je puis en parler comme cela, est bien remplie, parce que c'est quand même l'objectif premier quand on va voir un film. Voilà.
Projet Dernière Chance, et effectivement, si vous voulez du dépaysement, du grand spectacle, vous en aurez. Et c'est vrai que par les temps qui courent, on a aussi besoin de ce genre de film. Donc voilà, on vous le recommande, malgré quelques petites réserves. Voilà, de ma part surtout d'ailleurs. Et bien maintenant, on change totalement de registre avec le film La Guerre des Prix, film réalisé par Anthony Dechaux avec Anna Girardot, Olivier Gourmet et Julien Frison.
Ah là, pour le coup, on va atterrir sérieusement, parce que
oui,
on revient quand même à la triste réalité, et en particulier au monde de la grande distribution. Voilà, vous l'aurez tous compris, c'est tout simplement un film qui aborde, je dirais, les rouages de la grande distribution, les structures financières, les contrats, les négociations. Le réalisateur en fait une sorte de, je dirais, une sorte de thriller quand même, en mettant donc en avant les tristes, je dirais, négociations qui ne sont que en fait des parties financières pour gagner quelques centimes sur un produit, mais qui représentent au final sur un volume très important des milliers voire des millions d'euros, c'est l'histoire de ces bras de fer entre grands groupes responsables et aussi second couteau, hein, parce qu'il y a aussi des bras droits, des semi bras droits qui vont en fait s'affronter dans ce monde impitoyable qui est le monde de la grande distribution. Alors là, il n'y a pas de surprise, hein, mais somme toute, ce qu'il y a, c'est que le film emporte là encore le morceau parce que tout simplement il y a un équilibre. Ce n'est pas du tout, je dirais, un retour très, très stéréotypé de ce monde-là. Je pense que c'est assez juste la vision qu'en a eue Anthony Dechaux, et bien sûr épaulé par que de bons acteurs, et en particulier Anna Girardot, Julien Frison, mais aussi cet acteur que j'affectionne particulièrement, qui est autre qu'Olivier Gourmet, qui n'en rajoute pas, en vieux routier de la grande distribution, pilier incontournable de ce groupe, et donc du coup lui aussi assez impitoyable. Mais il faut voir le film parce que franchement c'est vraiment un constat très alarmant de ces pratiques douteuses, mafieuses, rien que cela, le film, qui est une fiction, serait presque un documentaire. Voilà, pour
tout
vous dire.
On comprend que les agriculteurs fassent des descentes dans les grandes surfaces pour justement se faire entendre, hein, parce que ça, c'est compliqué de voilà, c'est quoi le juste prix pour qui?
Oui,
voilà.
Oui. Et donc là, le film est très intéressant parce que de par la fiction qui est le scénario qui a été finement écrit par le réalisateur, qui raconte l'histoire d'ailleurs d'une chef de rayon promue à la table des négociations pour changer la donne et dont le frère est un fournisseur au bord de la faillite. Voilà, donc ça aborde en fait aussi le rapport entre les petits producteurs qui veulent vivre de leur travail, hein, ce qui est tout à fait légitime. Et donc c'est un film assez dense, même s'il est relativement court parce qu'il fait à peine un petit peu plus d'une heure trente, mais on vraiment ne s'ennuie pas. C'est vraiment tendu de bout en bout et une belle histoire qui est vraiment très très forte et qui est tout à fait réaliste et loin des stéréotypes, c'est ce qui est assez intéressant. Donc franchement, c'est vraiment un des films à voir du moment si vous voulez avoir une vision la plus juste de ce monde-là. Eh bien, il faut aller voir non pas Le Juste Prix, mais La Guerre des Prix.
Exactement. La Guerre des Prix avec Anna Girardot, on vous le conseille. Et puis voilà, si vous aimez les grands espaces, c'est le cas de le dire, le grand spectacle, vous allez voir Projet Dernière Chance. Dans le titre original, c'est plutôt Projet Hail Mary. J'aime bien le titre original. Et en tout cas, vous ne serez pas déçus. Alors par contre, c'est que là quand même, on a quelques réserves sur la couleuvre noire. Là par contre, c'est
Alors après, on ne sera pas dur avec ce film-là. C'est que en fait, si vous aimez, les moments un petit peu transcendantaux, parce que c'est
d'accord,
on peut ça relève un petit peu de ce registre là et bien si ce côté un petit peu mystique vous pouvez quand même aller voir. De part, déjà, une très très belle photographie. Ça, c'est par contre. C'est quand même le gros point de ce film. C'est quand même les images avec donc ce tournage dans le désert de la Tatacoa, qui est vraiment sublime parce que le film est vraiment tourné de bout en bout. Alors, il est relativement court, hein, donc il fait moins d'1h30. Mais voilà, si vous n'avez jamais vu le désert colombien, eh bien, c'est, je dirais, l'opportunité de le découvrir.
Parfait, il est 22h27. Est-ce qu'on fait une petite pause
Eh bien oui, avec
une musicale.
Avec la musique d'une comédie policière.
Oui.
À la très très belle distribution, puisqu'on pouvait découvrir Fernand Berset, Sébastien Floche, Bernard Faure, André Badin, Marcel Gassouk, Marc Laurence, vous voyez, que des grandes figures, mais aussi... Corinne Marchand, Gaston Mochine, Francis Blanche, Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre, pour un film réalisé en 1967. Musique signée...
Michel Magne ?
Non, pas du
non,
tout.
Pas du
Claude Bouling.
Ah, mais d'accord.
Pour ce film qui s'intitule « Du mou dans la gâchette ».
Ah, bah écoute, alors là, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que c'est un film qu'on a un peu oublié quand même, mais quand même, « Du mou dans la gâchette », quel titre, quel casting et quelle musique.
Oui, quelle musique. Et vous allez découvrir un petit peu de jazzy hein, dans les années 60.
Ah, bah Claude
allez,
Bouling.
Voilà, nostalgie. Eh bien, tu nous rattrapes. Eh bien, voilà, Claude Bouling. Et on le découvre, parce que peut-être que c'est un inédit pour vous. Donc voilà, on vous en fait profiter et on se retrouve dans 3 petites minutes.
Eh bien voilà, maintenant, après Bowling, c'est le moment de vous annoncer le titre des films qui vont sortir ce mercredi 1er avril sur vos écrans. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir à partir de mercredi? Alors, je me tourne vers Laurent, qui doit avoir un listing, comme d'habitude, j'imagine, assez fourni, d'ailleurs. Hein, donc, qu'est-ce que tu nous proposes, là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller se mettre sous la dent au cinéma?
Eh bien, une vingtaine de sorties, un petit peu moins, quand même. Hein, mais on est quand même sur vraiment une assez grosse production. Alors, il y a des films où on n'a pas grand-chose. Alors, il y a quand même ce film qui est quand même assez médiatisé. On l'aura sur Limoges, ça, par contre, je vous le rassure, pour ceux qui voudraient le découvrir. C'est le dernier film de Yann Samuel, Compostelle.
Oui, avec Alexandra Lamy. Ouais. Oui, ça a l'air pas trop mal. Alors, en plus, Yann Samuel, c'est les jeux d'enfants. Et puis, la guerre des boutons également. Donc, ça peut être intéressant.
Autre film, Derrière les palmiers, de Mariam Ben Barak. Je sais pas si tu as quelque chose.
Non, là, pour l'instant, non.
Autre film de Rod Blackhurst. Dolly.
Oui, ça, c'est un film d'horreur qui a l'air assez trash d'ailleurs, mais avec de l'humour quand même, de l'humour noir, hein, bien noir quand même. Parce que, voilà, avec l'acteur Sean, alors comment il s'appelle, Sean William Scott, je crois que c'est. Voilà, je pense que ça peut être, si vous aimez les films d'horreur, ça peut être intéressant.
Le film de Christopher Borgli, The Drama, donc
avec la belle Zendaya qui fait la une de première ce mois-ci. Ouais. Alors Robert Pattinson à ses côtés.
Et le retour.
Voilà. Donc c'est une fausse rom-com, on pourrait dire ça, qui explore. Enfin, on n'en dit pas plus, mais ça m'a l'air assez intéressant, ce drama.
Ensuite, un film de Lucio Castro, Drunken Rudies.
Drunken Noodles, plutôt.
Noodles, pardon, oui.
Oui.
Noodles.
Bon, oui, alors là, j'ai pas d'infos sur le film, par contre.
Non, moi non plus. Hélène Trésorée Transnationale, de Judith Abitbol. Alors ça, c'est un documentaire, je crois, dans le registre des transgenres.
Alors, qui est consacré à une critique qui s'appelle Hélène Azera, qui travaille encore sur France Culture, et qui a une vie incroyable. Elle a été une comédienne trans, elle a même été prostituée, et puis voilà, elle a réussi comme à changer de registre, à travailler dans la critique musicale, cinématographique. Ça a l'air assez intéressant, ça, ce documentaire.
Ok, film de Brandon Kramer, Holding List.
Oui, alors là, j'ai pas trop d'infos sur ce Holding List. Là aussi, c'est un documentaire, apparemment.
Ok. Le dernier film de Gérard Jugnot, Mauvaise Pioche.
Oui, alors ça, c'est où l'on retrouve aussi Thierry Lhermitte. Là, justement, donc dans ce film, en fait, eh bien, le héros se trouve est pris par erreur pour un Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, c'est Gérard Jugnot qui est apparemment donc est la victime de ce quiproquo.
Film de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra.
Voilà, Nuestra Tierra, bien prononcé, hein. oui, là aussi c'est un documentaire argentin, voilà. Donc, mais là j'en sais pas plus.
Film de Kirk Jones, Plus fort que moi, qui s'annonce très très fort, peut-être un des films de ce mois.
Oui, exactement, qui suit l'histoire vraie d'un jeune homme atteint du syndrome Jules de la Tourette en Angleterre dans les années 80. Et effectivement, ça ne l'a pas quitté, il est encore là. Et d'ailleurs, alors il a rencontré à un moment donné la reine Elisabeth II, et il lui a dit en direct nique la reine, quoi. Mais bon, il s'est excusé tout de suite parce que bon, c'est le syndrome Jules de la Tourette. De même, au dernier BAFTA, il a insulté Michael B. Jordan. Ça après qu'il ait gagné le prix du meilleur acteur pour Sinners, il a traité de sale nègre. Alors qu'il s'est excusé tout de suite après, parce qu'il n'est pas raciste du tout. Mais voilà, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. C'est un feel-good movie, apparemment, et l'acteur est vraiment formidable. Moi, je l'avais découvert dans Rings of Power.
Alors, film de Baptiste de Turche et Adrien Le Saffre, c'est Le secret du loup d'Éthiopie. Je pense que c'est peut-être un film d'animation.
Oui, peut-être. J'ai pas d'infos là, sur ce film.
Ensuite, film de Liliko Enyedi, c'est Silent Friend.
Oui, avec l'acteur chinois Tony Leung. Il est à ses côtés Léa Seydoux. Voilà, ça a l'air d'être un film assez contemplatif. En plus, il dure 2h30, un film hongrois.
On ne pourra pas passer outre hein, le film de Aaron Horvat et de Michael Jelanik, Super Mario Galaxy, le film.
Oui, bon, bah, Super Mario, moi, j'y arrive pas personnellement, mais bon, après, voilà.
Non, il en faut pour tous les
goûts. Bah oui, bien sûr, bien sûr.
Film de Ilkar Satak, c'est Yellow Letters.
Oui, film turc, là aussi, un film, bon, il dure un petit peu plus de 2 heures. Voilà, c'est un film qui met en scène un couple dans la tourmente pour avoir osé ne pas céder aux injonctions du régime Erdogan.
Voilà, et puis juste eh bien, un petit aparté pour vous parler de reprise avec le film de Louise Buñuel, Le fleuve de la mort. Le film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres, et aussi le film d'Eyni Sroor, L'heure de la libération a sonné, qui seront diffusés en national, mais voilà, dans les villes
qui pourront
le proposer. Rien n'est moins sûr au sujet de ces reprises. Eh bien, on a fait le tour,
oui,
Chris.
Très bien. Alors, pas mal de choses. Alors, nous, on ne se retrouve pas lundi prochain, exceptionnellement. On se retrouvera dans 2 semaines. Donc, petite pause, parce que de toute façon, je crois que lundi prochain, c'est le lundi de Pâques, me semble-t-il.
Oui. Voilà. Et donc, on prendra un petit peu de congé, je dirais.
Voilà.
Et on vous donne rendez-vous dans une petite quinzaine. Voilà.
Tout à fait. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une excellente semaine dans les salles du cinéma. Et à la prochaine. Ciao, ciao.
Salut, bonne semaine et dans 15 jours.